Bonjour Nicolas. Et
Bonjour.
écoute, nous sommes quatre autour de la table pour te faire une petite interview. Quatre donc de l'association Vivre en Comminges. Je souhaitais en savoir un petit peu plus sur toi, évidemment, mais surtout sur Deep Green Résistance. Donc tout d'abord, il me semble savoir que tu es traducteur.
Oui, je traduis des livres de l'anglais vers le français pour une maison d'édition qu'on a montée avec un ami parisien qui s'appelle Les Éditions Libres. On a récemment publié un bouquin qui s'appelle « Comment la non-violence protège l'État », écrit par un anarchiste américain, et un bouquin d'Eric Jensen qui s'appelle « Zoo, le cauchemar de la vie en captivité ». Et deux petits volumes qui compilent des textes sur l'écologie radicale, dont les titres sont « Écologie en résistance, volume 1 et volume 2 ».
Tu traduis souvent donc des textes donc d'écologie donc radicale ou liés à l'écologie ou des textes politiques.
D'autre part, tu fais partie de l'organisation Deep Green Resistance, dont tu es membre.
Vous voulez que je vous en parle un peu?
C'est le sujet, oui, tout à fait.
C'est une organisation qui, à la base, est née aux États-Unis en 2011 à la suite de la publication d'un livre du même nom qui s'appelle Deep Green Resistance, qui est écrit par trois auteurs américains, Derek Jensen, Lear Keith et Arik McBey. Derek Jensen, il était déjà un peu connu aux États-Unis parce que depuis, je pense, les années 2000 environ, il écrit des bouquins qui traitent un peu de tous les sujets de politique en général, mais il est catégorisé comme faisant partie de l'écologie profonde, donc écologie radicale. Les Américains disent deep ecology. En français, on dit écologie profonde ou écologie radicale.
C'est la traduction de Deep Green Resistance. Est-ce que tu peux, ça veut dire?
C'est pas forcément évident à traduire. Deep Green Resistance, on peut considérer que c'est résistance écologique profonde, mais je pense que résistance écologique radicale, ça peut aussi bien fonctionner. Et donc, pour reprendre, il y avait aussi Lear Keith, qui est une auteure aussi américaine, qui était moins connue que Derek, mais qui avait déjà écrit un livre sur le végétarianisme, qui a été traduit en français, qui s'appelle Le mythe végétarien. Et le dernier auteur, c'est Arik McBey. Il était écrivain et un peu militant. Il s'intéressait à l'histoire des luttes sociales dans le monde entier. Et donc le mouvement Deep Green Resistance est né à partir du bouquin qu'ils ont écrit tous les trois, qui constitue en fait une sorte de stratégie. Enfin, c'est une analyse d'abord sur la situation globale de dans laquelle on se trouve, et c'est ensuite une stratégie pour parvenir à résoudre les principaux problèmes écologiques auxquels on fait face, et sociaux.
Le constat, c'est qu'il y a un problème de destruction de la planète liée à la civilisation, et puis toutes les problématiques, notamment sociales, qui en découlent, et que les mouvements sociaux habituels, manifs ou sitting ou tout ce qui est de l'ordre des manifestations non violentes, ainsi que toute la pensée écologique du genre de trier ses déchets, de même bien mettre sa bouteille dans le truc plastique, de changer ses ampoules ou de rester que 2 minutes sous la douche ne sont pas suffisantes pour enrayer ces problématiques, et que ça a ses limites, et qu'il y a une urgence aussi de la situation, et d'où d'où la nécessité de passer à quelque chose d'actif, c'est bien ça?
C'est ça, parce que d'une part on peut constater que à peu près jamais dans l'histoire un changement social significatif n'a pris place sans qu'il y ait en face un mouvement social beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus radical que seulement des gens qui manifestent et qui signent des pétitions, peu importe l'exemple de changement social historique auquel on peut penser, il y aura toujours à chaque fois derrière ça un mouvement social beaucoup plus musclé que ce qu'on voit aujourd'hui dans par exemple avec le mouvement écologiste grand public, qui effectivement se concentre sur ce qu'ils appellent les petits gestes du quotidien ou les petits gestes éco-citoyens. Il y a toutes les grandes institutions promeuvent ça. Ça va de l'ONU à des ONG en France, comme on peut penser au Colibri ou à Greenpeace ou à plein d'autres organisations qui se contentent de, de, de promouvoir ces solutions qui n'en sont pas du tout. On voit bien que ça ne sert à rien. On peut le comprendre. Dans un article de Derek Johnson qui s'appelle Oublier les douches courtes, où il explique que même si un citoyen, même si tous les citoyens effectuaient tous ces petits gestes, les suivaient tous, ça changerait rien à la situation, on continuerait de détruire la planète. Et donc voilà, c'est un constat qui est assez. C'est tellement évident que même justement le grand patron des Colibris, Cyril Dion, dans son dernier bouquin, il commence maintenant à changer de discours. Il explique que les petits gestes, c'est vrai, que peut-être que en fait ça suffit pas. Et donc bon.
Donc c'est pas la petite goutte d'eau du colibri qui balance sur le feu qui va faire quoi que ce soit.
Exactement, mais même eux le reconnaissent maintenant, donc ça va.
Et d'où la nécessité donc de passer à des actions de plus grande ampleur ou de plus grande
plus profonde
efficacité.
Parce qu'en fait on se rend compte que on a aussi justement quelques exemples par-ci par-là d'actions plus radicales et plus combatives, on va dire, qui ont des résultats qui ont des résultats tout court. Et on peut penser à après, c'est dans des contextes assez différents, mais on peut penser au MEND, mouvement d'émancipation du Delta du Niger, au Nigeria, qui a réussi à faire chuter la production pétrolière du pays de plus de 40%, je crois, en quelques mois, juste en sabotant des pipelines et des plateformes pétrolières. On peut penser à la révolution des noix de coco ou sur l'île de Bougainville où les gens ont pris les armes pour s'opposer à des entreprises d'extraction minière et ça a fonctionné. On peut penser à Notre-Dame-des-Landes tout simplement en France où suffisamment de gens ont réussi à s'opposer aux forces policières et à aller physiquement au combat pour empêcher la construction d'un aéroport. Ça a fonctionné. Donc ouais, c'est ce genre de stratégie qu'on veut mettre de tactique qu'on veut mettre en lumière.
Ouais, au niveau des objectifs, parce que j'ai cru voir sur une vidéo où j'ai entendu parler de l'IRKF qui parlait justement d'objectifs et de stratégies qui étaient mises en place. Et donc des objectifs, quels objectifs on pourrait mettre en place, par exemple pour arriver. Quels sont les objectifs plutôt, pardon, excuse-moi. Quels sont les objectifs pour arriver à ce qui vous semble être correct? Ou ce que vous voulez
pour y aller franchement, l'objectif de Deep Green Resistance c'est de faire en sorte de précipiter l'écroulement de la civilisation industrielle, parce que grosso modo on sait très bien que quel est le problème et que de toute façon elle finira par s'écrouler, parce que c'est une organisation sociale qui est complètement insoutenable. Et donc l'idée, c'est donc de précipiter l'écroulement de la civilisation industrielle. C'est détaillé dans le bouquin, mais grosso modo, c'est comprendre qu'il faut la coordination de plusieurs types de mouvements pour parvenir à l'objectif final, qui est donc de la faire écrouler. Parce qu'évidemment, si on prend en compte si on se dit il faut se lancer dans le sabotage, tout faire péter, etc., on va se retrouver dans une situation qui n'est pas forcément nous-mêmes, tous individuellement, on va pas forcément être dans une très très bonne situation. Alors par contre, si on prend en compte le mouvement de la permaculture et tous ces autres mouvements-là qui sont en train d'essayer de militer pour plus d'autonomie, pour qu'on redevienne tous communautairement maîtres de nos moyens d'existence, ou au moins un minimum, ça plus des mouvements qui sont prêts à se lancer dans des actions de sabotage d'infrastructures, ça peut effectivement, au fur et à mesure, faire disparaître la culture dominante, on va dire.
Tu parles de précipiter l'effondrement de la civilisation industrielle, et sur votre site internet, vous parlez de cette problématique de civilisation qui n'est pas soutenable, et notamment la civilisation industrielle, et qu'on ne pourra pas l'améliorer. Et qu'est-ce que vous entendez par civilisation, quoi? Qu'est-ce qui peut se mettre à la place de cette civilisation?
C'est la même chose que ce qui est généralement entendu. Par exemple, on a récemment vu sur Arte un documentaire qui s'intitulait, je crois, Aux origines des civilisations, mais qui au final en fait parlait de la civilisation. Dans le documentaire, ils ne font que parler de la civilisation. en faisant référence aux premières cités-États du Moyen-Orient. Et c'est donc à ça qu'on fait référence quand on parle de la civilisation, c'est la vie dans les villes, c'est la vie dans les cités. Et on se rend compte effectivement que l'analyse par exemple du courant anti-industriel qui va faire porter le blâme à l'industrialisme né dans les années 1800-1900, c'est trop léger parce que avant les années 1800-1900, on se rend bien compte qu'il y avait plein de sociétés qui étaient complètement insoutenables, des sociétés qui correspondent à ce qu'on a aujourd'hui, à ce qu'on appelle la civilisation, des sociétés basées sur la ville, basées sur l'extraction de ressources, etc., basées sur des sociétés étatiques. Et donc, simplement dire que les problèmes ont commencé avec la révolution industrielle en 1800-1900, c'est pas exact. On voit la civilisation, les Grecs, les Romains ont complètement aussi ravagé leur environnement. Et donc, ce constat nous amène à dire que le problème, effectivement, c'est la civilisation tout court. C'est ce mode de vie basé sur la ville, ce mode de vie basé sur l'exploitation, la surexploitation de l'environnement, basé sur l'importation de ressources, basé sur l'impérialisme, etc.
Donc c'est le fondement, l'organisation en cité, et donc ce qui pourrait se mettre en place, c'est quoi? C'est une grosse réforme agraire, une exode urbaine où les gens retourneraient à la campagne?
Une sorte de dissolution de la civilisation en une multitude de cultures. En gros, la civilisation, le mot il est apparu en 1756 dans l'ami des hommes de Mirabeau, et ça a créé tout de suite une dichotomie entre, donc il y avait les civilisés et les non-civilisés. Ce qu'on essaie de montrer, c'est que les seules sociétés à peu près soutenables ou soutenables qu'on ait en exemple dans l'histoire de l'humanité, c'est des sociétés qui étaient non civilisées. Et donc, effectivement, l'objectif sur le long terme, ce serait de dissoudre la civilisation industrielle et de que les gens se regroupent en cultures plus ou moins autonomes en fonction de leur environnement. Chaque problème, c'est que c'est pas évident de donner une sorte de plan d'avenir, parce que on veut pas, contrairement à beaucoup de futurologues, on veut pas dire qu'il y a un seul modèle du coup de société pour tout le monde. Une société humaine soutenable, ça va être une société qui est adaptée à son environnement local, qui est à taille humaine, etc. Donc nous, ce qu'on imagine dans le futur, c'est une multitude de sociétés qui vont être chacune à taille humaine et qui seront organisées en fonction de ce que leur environnement permet.
Donc on comprend bien les objectifs et ces notions. Donc maintenant, le deuxième pôle dans vos écrits, c'est la stratégie, quoi. Et c'est un mot qui est important, une notion importante de stratégie.
Ouais, c'est une notion importante parce que donc comme l'explique Eric Macbeth dans le bouquin, il y a différents en fait, on a tendance à mélanger par exemple parfois tactique, stratégie, objectif, etc. Et donc les tactiques font partie d'une stratégie et la stratégie, donc elle implique des objectifs. Et en gros, du coup, pour faire simple, dans le bouquin, ce qui est suggéré, c'est que c'est l'existence d'un mouvement qui serait divisé en deux. Ils appellent ça l'underground et l'above ground aux États-Unis, enfin en américain. Nous, on a traduit ça par mouvement à ciel ouvert et mouvement clandestin. Et en gros, c'est il faut qu'il y ait des groupes de gens, des cellules, dans le mouvement clandestin, qui soient assez motivés et déterminés pour attaquer les points névralgiques de la civilisation. En gros, l'idée, c'est d'abord effectivement du coup d'examiner les points faibles en fait de la civilisation, les goulets d'étranglement. Quelles sont les infrastructures les plus fragiles et les plus cruciales pour la civilisation, donc de faire une sorte de liste de cibles pour savoir ce qui serait plus judicieux de cibler. Et donc ça, en gros, voilà, ça c'est l'idée, c'est qu'un mouvement clandestin s'occupe de s'attaquer aux infrastructures industrielles importantes pour perturber donc l'économie mondiale, et de l'autre côté, un mouvement à ciel ouvert pour défendre ses pratiques dans les médias, pour défendre ses pratiques, en gros, de manière un peu officielle, mais pour séparer les deux, pour pas qu'il y ait, pour éviter évidemment, parce que la répression aujourd'hui dans tous les pays du monde elle sévit. Et donc pour éviter cette répression, c'est ce qui est suggéré dans le livre, il faut qu'il y ait toujours un pare-feu entre ceux qui vont publiquement défendre ces stratégies, ces tactiques et cette stratégie, et ceux qui vont les mettre en œuvre. Et donc grosso modo, c'est un mouvement divisé en deux parties. Une partie qui attaque les infrastructures de la civilisation industrielle, l'autre partie qui essaye de défendre ça dans le public et de légitimer ses actions, pour ensuite parvenir au fur et à mesure à la recréation de ces sociétés plus ou moins autonomes en fonction des endroits.
Donc les points névralgiques de la civilisation en cours, ce serait l'exploitation énergétique
ce genre de choses. On sait bien que par exemple, c'est pas très compliqué. Je crois qu'il donnait des exemples, des lignes électriques, on sait que c'est pas très compliqué. La civilisation est entièrement dépendante de son réseau énergétique, et donc celui qui sabote un pylône électrique, etc., il va rapidement pouvoir mettre hors service tout un tas de choses. Donc c'est ce genre de réflexion qu'on met en avant.
On crée une espèce de chaos à un moment si on coupe l'électricité dans des lignes de tension où il y a une sorte de chaos. On n'a plus d'électricité alors qu'on fonctionnait avec de l'électricité.
Oui, pareil, la réflexion doit être faut pas couper l'électricité n'importe où, n'importe comment, à n'importe qui. L'idée, c'est évidemment de réfléchir à ce qu'on coupe, qu'est-ce qui est nuisible, quelles sont les principales industries, les principales nuisances à arrêter, en gros.
Dans cette action, quelle est la place de la violence, ou comment vous définissez, c'est des actions violentes, quoi, de sabotage?
La violence, c'était le propos du bouquin « Comment la non-violence protège l'État » que j'ai traduit. La violence, c'est un mot fourre-tout. Personne ne sera d'accord avec personne sur ce qui est violent et pas violent. Il y a certaines choses qui seront violentes pour une personne, ne seront pas violentes pour une autre, etc. Donc déjà, c'est parler de violence, c'est un peu vague. Mais bon, si on doit vraiment en parler, moi je pense que c'est la posture du mouvement, c'est de dire que s'attaquer à de l'infrastructure, c'est pas violent. La violence, nous on considère que c'est contre les personnes. Les personnes sensibles, humains ou non humains. Mais donc du coup, s'attaquer à un pylône électrique, on considère pas que ce soit de la violence.
Et dans les fondements de cette civilisation, hormis ce qui peut être de l'ordre de la production d'énergie, quelle est votre position par rapport aux institutions entre guillemets démocratiques?
Du coup, la question, c'est un peu, est-ce qu'on vit en démocratie? C'est ça, moi je pense pas. Du coup, parce que les institutions démocratiques actuelles, je cherche, mais j'en vois pas beaucoup.
Et non, la question, c'était plutôt comment désorganiser le système politique, quoi, actuel, ouais, qui dirige l'ensemble de la collectivité.
Ouais.
Est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus, ou un positionnement?
On pense pas que le système politique dominant soit réformable ou amendable ou changeable. Le système politique dominant, pour nous, il est clairement pas démocratique. On peut le voir pour ceux qui auraient des doutes ou qui auraient des incompréhensions à ce sujet. Il faut lire le travail de Francis Dupuy-Derry, un professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, qui a beaucoup écrit là-dessus, c'est intéressant. Mais donc, nous, on considère que le système politique dominant n'est pas du tout démocratique et qu'il y a à peu près aucun moyen de le faire changer. Après, on encourage tous ceux qui veulent essayer d'améliorer la situation à travers des recours juridiques ou ce genre de choses. Pourquoi pas? Mais on pense que c'est un peu peine perdue d'essayer de faire changer le système politique.
Est-ce que vous appelez ce qu'on pourrait appeler révolution ? C'est un terme que j'ai pas retrouvé dans les différents écrits ni sur votre site internet.
Je pense pas que ce soit très. Enfin, dans le livre d'EGR, ça doit y être. Mais révolution, ouais, ça dépend ce qu'on entend par révolution. Je pense que d'un côté, oui. Mais de l'autre, on a, l'objectif n'est pas que le pouvoir soit repris par qui que ce soit. L'objectif, c'est plutôt l'objectif des anarchistes, à savoir que le pouvoir tel qu'il existe actuellement, il doit surtout être détruit et pas repris. Donc, révolution, oui et non.
Vous définissez comme un mouvement anarchiste ou libertaire ?
Oui, plus ou moins. En fait, c'est oui, plus ou moins. Je dis ça parce qu'il y a Derek Jensen, qui est un des fondateurs de Deep Green Resistance, qui devait publier un bouquin aux États-Unis sur l'anarchisme. En fait, Derek a remarqué qu'il y a tout un courant dans le mouvement anarchiste qui tend à rejeter de manière viscérale tout ce qui s'apparente de près ou de loin à de l'autorité. Et donc, en fait, c'était Noam Chomsky qui disait ça aux États-Unis. Il dit que l'anarchie, c'est pas le refus total et en bloc de tout ce qui se rapporte à l'autorité, c'est d'examiner toutes les autorités, de voir si elles sont légitimes et de rejeter celles qui ne sont pas légitimes. Donc en gros, oui, je pense qu'on est un mouvement anarchiste dans ce sens-là, oui. Où l'idée, c'est de rejeter toutes les formes d'autorité illégitimes.
Et actuellement, au niveau de Deep Green Resistance, quelles sont les actions que vous soutenez ?
Actuellement, on soutient évidemment toutes les actions des différentes ZAD en France. On est en contact avec des gens dans quelques ZAD. Et c'est le genre d'action qu'on fait principalement en France. Là, si je dois réfléchir à quelque chose, c'est principalement ce qui me vient en tête.
À plusieurs reprises, là, tu nous as parlé d'un livre que tu cites plus particulièrement. Quel est ce livre ?
Le livre Deep Green Resistance.
C'est le livre du même nom que l'organisation.
Ouais, le livre du même nom que l'organisation. On est en train de le traduire. C'est un peu long parce qu'il fait, je crois, il fait 600 ou 700 pages en anglais. Et sachant qu'en français, les textes en général font 20% de plus. Donc ça va nous faire entre 800 et 1000 pages en français, je pense. Du coup, c'est un gros travail, mais ça devrait. On va le diviser en deux. Du coup, le premier tome devrait. On va sortir un premier tome en septembre ou octobre, et un deuxième quelques mois plus tard, je pense.
Donc, tu nous as parlé tout à l'heure que tu étais traducteur pour les éditions libres. C'est une maison d'édition qui est en lien avec Deep Green Resistance ou qui diffuse notamment des livres autour de la pensée de Deep Green Resistance et des recueils de textes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les auteurs qui sont diffusés dans cette maison d'édition ?
Ouais, en gros, c'est ça. On a créé ça avec un ami parisien on est tous les deux membres de Deep Green Resistance. Et comme on voulait publier en français les livres des auteurs de Deep Green Resistance, c'est qu'on s'est rendu compte que la plupart des maisons d'édition françaises n'avaient pas le cran de les publier. Parce que moi, par exemple, j'étais en contact avec des gens aux éditions du Seuil qui s'intéressaient à, par exemple, aux écrits de Derek Jensen, avec qui j'ai beaucoup discuté. Est-ce qu'ils allaient le traduire? Parce que ici, en fait, j'étais en contact avec la personne qui dirige la collection Anthropocène au Seuil et qui était intéressée par traduire Derek Jensen. Seulement, il s'est avéré que ça allait pas être possible parce que c'était pas, en gros, ça rentrait pas dans, c'était trop radical, je pense, en gros, pour leur maison d'édition. Et du coup, partant de là, on s'est vite rendu compte que le seul moyen de publier ce genre de, les auteurs qu'on voulait publier en France, c'était de créer nous-mêmes notre propre maison d'édition. Du coup, on a créé les éditions libres. Et ouais, on publie, on va publier le bouquin Deep Green Resistance, mais donc on a publié cette traduction de Comment la non-violence protège l'État de Peter Galderlos, qui est un militant anarchiste américain, qui n'est pas lié à Deep Green Resistance, parce que pour le coup, c'était vraiment juste sur le côté. On l'a publié pour l'intérêt du débat violence-non-violence. On va publier aussi, là, à la rentrée, un petit bouquin, un petit roman. Il s'appelle Ishmael. Il est écrit par un auteur assez connu, Daniel Quinn, le bouquin Ishmael avait été très très vendu. Il est sorti dans les années 90, je crois. Ça avait été un best-seller traduit en plein de langues. Et l'intérêt de ce bouquin, c'est que ça, c'est une critique de la civilisation, mais assez assez douce, on va dire. C'est sous forme de roman. C'est une histoire où il y en a qui parlent de roman socratique. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais en gros, voilà, tous les sujets qui tournent autour de la critique de la civilisation, de la critique du progrès, de l'anarchisme et du coup du militantisme, du féminisme aussi. On s'intéresse, on voudrait essayer de publier un bouquin de Andrea Dworkin qui a été traduit bénévolement par une personne sur Internet, qui l'a mise sur Internet. Parce qu'on pense aussi que le féminisme c'est une problématique assez importante, les inégalités entre les hommes et les femmes. Et que ça s'inscrit très très bien avec la problématique écologique. Voilà un peu les sujets qui nous intéressent et du coup autour desquels on va publier des livres.
Alors vous avez publié aussi deux recueils de textes écologie en résistance où il y a notamment quelques personnes plus connues. Enfin, je pense à Murray Bookchin qui est édité en français. Ses livres sont déjà édités. Ou Vandana Shiva, cette physicienne indienne qui est très connue dans les mouvements. Altermondialiste. Est-ce que c'est des personnes qui soutiennent ouvertement Deep Green Resistance ou c'est des textes qui sont mis à disposition par les éditions?
Non, en fait, Vandana Shiva, s'il y a un de ces textes dans les compilations, voilà, c'est que en 2000, je sais plus si c'était en 2011 ou non, ça devait être en 2014, elle a été invitée par un des membres de Deep Green Resistance US qui organisait une sorte de conférence sur 2-3 jours en Californie et qui a fait venir des militants écologistes un peu du monde entier. Et donc il y avait Vandana Shiva. Je ne sais pas si on pourrait dire qu'elle soutient Deep Green Resistance. En tout cas, elle connaît Derek Jensen, elle connaît les fondateurs de Deep Green Resistance. Ils s'entendent sur certains sujets. Mais c'était plus... c'était plus une sorte de conférence ouverte un peu à différents sujets qui tournent autour de l'écologie. Du coup, elle a participé et du coup, nous, on a récupéré son texte parce que la conférence était organisée par un membre de Deep Green Resistance. Mais donc, elle n'est pas officiellement de Deep Green Resistance et elle ne soutient pas, je pense, aussi clairement. Mais elle n'est pas non plus, comme elle connaît Derek Jensen, elle savait où elle s'embarquait quand elle est venue pour cette conférence. Donc, c'est des gens qu'on a publiés parce que au final... leurs perspectives sont relativement proches de la nôtre.
D'accord, c'est la même chose un peu pour Murray Bookchin qui est l'auteur de L'écologie de la liberté qui est publié en français déjà.
Oui, c'est un peu la même chose pour Bookchin, ouais. il est pas mal cité dans le livre Deep Green Resistance.
Pour finir, personnellement, qu'est-ce qui t'a incité à t'engager dans ces éditions libres et puis dans le mouvement Deep Green Resistance, que t'es le point d'appui?
J'ai commencé à la base par militer dans politiquement à gauche, on va dire, comme beaucoup. J'allais aux manifs, je faisais ce genre de choses, j'allais voir des conférences, je faisais un peu. Du coup, en fait, je suis arrivé à l'écologie par le militantisme politique. J'ai découvert l'anarchie, j'ai découvert toutes ces analyses-là. Ça m'a beaucoup parlé. Je me suis rendu compte que c'était effectivement ce qui décrivait le mieux la situation. Et j'en suis venu, je ne sais plus exactement comment, à lire en anglais Derek Jensen et d'autres auteurs qu'on associe à l'écologie profonde ou radicale. Et ça m'a tout de suite parlé parce que je me suis rendu compte que c'était les analyses les plus honnêtes et les plus justes que j'avais eues jusque-là. Et du coup, voilà, je me suis intéressé à... Parce que, en fait, je trouve que l'écologie radicale, c'est ce qui associe le mieux les problématiques sociales et écologiques. Voilà pourquoi je me suis resté ensuite là, parce que c'est ce que je trouve ce qui est le plus pertinent à mes yeux.
Pour finir, est-ce que tu peux nous donner quelques liens Internet et nous parler de tes différents sites Internet où on peut retrouver des informations à la fois sur tes écrits et traductions et sur Deep Green Resistance?
on travaille sur un site Bleu Résistance France, mais c'est pas encore hyper au point. Mais pour l'instant, on publie pas mal de traductions et de textes sur le site partage-le.com. C'est un blog qui a bientôt 4-5 ans, je ne sais plus exactement. Et voilà, vous pouvez retrouver toutes sortes de textes sur plein de sujets, par plein d'auteurs, et voilà, et des documentaires aussi sous-titrés, ce genre de choses. Après, voilà. Si vous voulez d'autres suggestions de sites internet qui tournent autour des problématiques qui nous intéressent, il faut consulter aussi le travail de Pièces et Main-d'œuvre, un collectif grenoblois. Il y a le blog Sniadeki qui est vraiment bien, tenu par Bertrand Louard, qui est un anti-industriel, mais leurs analyses sur la société industrielle sont très très intéressantes. Voilà, quoi je pense.
D'accord, ben je te remercie, nous te remercions de cette intervention pour notre émission. Ça s'appelle l'émission qui veut sauver la planète, donc ça nous a parlé de lire ces recueils de textes comme stratégie pour une terre en péril. Ça s'intégrait bien, on se devait de vous interviewer.
Et on
espère peut-être réaliser d'autres interviews sur des sujets peut-être plus précis ou...
Il faudrait en faire une avec Kevin Haddock, mon collègue qui est à Paris.
D'accord. Ben, je te remercie et à très bientôt. Au revoir.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir, Nicolas.
Merci.
Salut.